Merci d'être branché à l'Alpha 10-13. J'ai l'honneur de m'entretenir maintenant avec l'une des personnalités qui a le plus fait pour le Portugal, pour la lusophonie en France, monsieur Michel Chandaigne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Vous êtes auteur, éditeur et traducteur et avez ouvert en 1986, il y a maintenant 40 ans, la librairie portugaise et brésilienne à Paris, la seule librairie en France intégralement dédiée à la littérature lusophone et l'une des rares en Europe. Elle se trouve dans le 5e arrondissement de la capitale, au 21 rue des Fossés Saint-Jacques. Avant d'évoquer la disparition du très grand Antonio Lobo Antunes, parlez-nous de votre librairie, Michel. Comment tout cela a-t-il commencé ?
Pour moi, j'étais nommé professeur au lycée français de Lisbonne en juin 1982 et ça a été un choc culturel, personnel, et après ma vie a complètement changé. Voilà. En créant cette librairie, cette maison d'édition, en traduisant des poètes, et voilà, donc c'est ma seconde patrie, le Portugal.
Oui, parce qu'effectivement, au-delà de la librairie, il y a également les éditions Chandaigne, qui aujourd'hui s'appellent Chandaigne et Lima.
Chandaigne et Lima, du nom de sa directrice depuis 35 ans.
Venons-en maintenant à la mort de l'auteur, j'aurais voulu dire nobelisé, mais malheureusement il s'est échappé avant. Venons-en à Antonio Lobo Antunes. Quel auteur était-il ? Comment le caractériser ?
Bon, moi je ne l'ai jamais vraiment connu, je l'ai croisé, donc je le connais par d'autres personnes. C'était un homme qui pouvait être à la fois tout à fait charmant, en même temps très difficile. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'était l'écrivain, que j'ai découvert un peu, comme tout le monde, au moment de la publication de son deuxième livre au Portugal, « Os Cus de Judas ». Les culs de Judas, traduit en français par le cul de Judas. Et je pense que c'est, en effet... le livre qu'il a fait connaître au monde entier, et en même temps ça reste le livre par lequel on peut commencer la lecture de Lobo Antunes, puisqu'on y trouve en germe tous les thèmes de son œuvre qui va se déployer à partir de ce livre. Et pour tout le monde, je crois au Portugal, puis quand ça a été traduit en français et dans d'autres langues, ça a été un choc, véritablement un choc.
Et alors comment caractériser la langue de Lobo Antunes ?
Alors, il a apporté vraiment quelque chose à la littérature portugaise et même par ses thèmes à la littérature européenne en général. Mais au Portugal, son écriture a vraiment changé les choses. C'est vraiment ce qu'on appelle la littérature du flux de conscience, c'est-à-dire cette technique d'écriture qui vous met à la place d'un individu qui raconte, et on va se plonger dans le flux de sa propre conscience, dans le flux de ses pensées, dans le flux bien sûr du monde qu'il rencontre, d'une manière tout à fait subjectif. D'où ces romans où je dirais on dirait qu'il n'y a qu'une phrase, on est emporté par la pensée qui brasse tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense de l'auteur. Et ça, c'était vraiment nouveau au Portugal et en même temps extrêmement efficace parce que c'est une très belle langue. Alors, c'est une lecture exigeante. Bien sûr, les premiers romans, Mémoire d'éléphant, Les culs de Judas, Fado Alexandrino, c'est des romans encore assez classiques. Mais après, il faut être capable de s'immerger dans la pensée de l'auteur et de ne pas se laisser distraire par le monde extérieur. Ce qui fait que dans ces derniers romans, où on a des flux de conscience qui durent 700 pages, certains lecteurs, il a perdu certains lecteurs à ce moment-là, parce que il faut vraiment se plonger dans cette œuvre. Vous me direz tous les auteurs, mais lui plus que d'autres. On pourrait dire que c'est le cas de Guimarães Rosa, ou de Joyce, de plein d'autres aussi.
Vous le disiez, la lecture est exigeante, mais l'écriture l'est aussi. L'écriture pour Lobo Antunes, c'était même une véritable angoisse, une peur profonde.
Oui, alors ça, comme je pense chez n'importe quel écrivain, en principe, bien sûr, c'était quelqu'un qui pensait qu'à la littérature, je pense, surtout la fin de sa vie. Il écrivait un livre par an, absolument plongé dans son écriture. Quand je dis son écriture, c'était bien une écriture, hein, il écrivait à la main, il me semble, ses manuscrits. Et bien sûr, c'était extrêmement exigeant. Il a fait, je crois, 41 romans quand même, alors qu'il a commencé assez tard, hein, à écrire. Et on a véritablement une œuvre. Alors, je vais vous reprendre, hein, sur une chose, et sur d'autres d'ailleurs.
Allez-y.
C'est que on dit qu'il va passer dans la Pléiade. C'était une idée qu'il y a eu il y a quelques années, mais il me semble qu'elle a été abandonnée. Il faudrait demander à Maria da Piedade Ferreira ou aux gens de la Pléiade. Et on parle depuis des années d'un auteur nobelisable. Mmh. Or, il ne l'a jamais été. Ça, c'est une chose que Christian Bourgois a imaginé, qui a été repris par les journalistes, qu'il est nobelisable. Il ne l'a jamais été.
Tout simplement. On raconte souvent qu'il faisait tous les ans partie de la shortlist pour le prix Nobel de littérature.
Ce qui est complètement faux, c'est une légende, même s'il a pu faire partie d'une large liste. Mais, et ça, je le disais moi-même à mes amis dès le début, ça c'est une idée que Bourgois a mis en tête de Lobo Antunes, mais les livres de Lobo Antunes ne sont pas nobélisables comme ceux de beaucoup d'autres. Pourquoi ? Parce que dans les statuts du prix Nobel de la littérature, il est écrit noir sur blanc que l'auteur doit transmettre dans son œuvre un très fort idéal. Mmh. Et pour le jury Nobel, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la littérature pessimiste, de la littérature qui ne donne pas une idée positive et heureuse et idéalisée de l'humanité, est écarté. Et
bon, c'est le péché originel. Il me semble que le dernier nobélisé, Krasnahorkai, n'est pas tout à fait un optimiste.
Oui, alors il y a des exceptions, mais assez rares. Mais c'est le péché originel du Nobel, c'est que le premier prix Nobel, hein, je crois que c'est 1902, je crois, c'est Sully Prudhomme, auteur français, qui l'a reçu, et il avait en face de lui Tolstoï et Ibsen. Et simplement, on disait que Tolstoï présentait une image noire de l'humanité, etc., etc. Et donc, c'est impossible que c'est très difficile pour que l'œuvre de Lobo Antunes, qui est à la fois une œuvre humaniste, mais en même temps qui montre le côté sombre de l'humanité, ô combien, puisse avoir le prix Nobel. J'étais un peu long, mais c'est parce que j'entends ça.
Mais vous avez.
Ça, là, surtout les communiqués de presse que je lis depuis hier. Mais ça n'empêche pas que ce soit une œuvre immense. Voilà.
Mais vous avez très bien fait, mais donc ce que je retiens, c'est qu'en plus de nous décrire Lobo Antunes comme un anti-Nobel de la littérature, vous nous apprenez qu'il n'intégrera donc plus la bibliothèque de la Pléiade, alors que son œuvre était prévue depuis 2018-2019.
Oui, alors je ne sais pas si... d'abord, si ça n'a jamais été signé, en tout cas, et je ne suis pas la meilleure personne pour vous dire ça, mais il me semble, la dernière fois que j'avais vu... son éditrice, Maria da Piedade Ferreira, à Lisbonne, elle me semblait dire, mais il faudrait vérifier, hein, que pour l'instant, il n'en est plus question, pour l'instant. Peut-être ça va revenir avec son décès, je ne sais pas.
Peut-être pouvez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices que cela signifierait d'intégrer la Pléiade ?
La Pléiade, ça serait le second auteur portugais qui l'intégrerait.
Après Fernando Pessoa ?
Fernando Pessoa, que... Lobo Antunes n'appréciait guère, d'ailleurs. Et c'est une reconnaissance qui, pour tout le monde, pour tous les écrivains du monde, est une vraie reconnaissance. Borges, hein, qui n'a jamais eu le prix Nobel, entre autres, on lui reprochait d'être complaisant avec les dictatures, hein, mais qui aurait dû l'avoir, évidemment, disait, quand il est rentré dans la Pléiade, « Oui, je suis content parce que... dans la Pléiade, il n'y a que des très bons auteurs, enfin à l'époque. Hein. Et tandis que le Nobel, ça a été donné à des gens souvent douteux, quoi. dans l'attribution du Nobel, il y a eu en effet des cas un peu bizarres. La Pléiade, c'est la vraie reconnaissance. En plus, pour Lobo Antunes, il
c'était
tenait
un rêve d'adolescent, oui.
Oui, il y tenait énormément, d'autant plus que Saramago n'y était pas. Donc ça, pour lui, c'était encore mieux.
Il y avait une rivalité avec José Saramago ?
Bon, c'est une rivalité qu'il a qui a été nourri, je crois, beaucoup par les journalistes, mais qui était quand même assez exact. Faudrait demander, je ne suis pas sûr que l'Aubantounès appréciait beaucoup l'œuvre de Sarah Mago, qui est quand même un peu aux antipodes de celle de l'Aubantounès, et dans la thématique et dans la manière de traiter la littérature. En deux mots, au centre de la littérature de l'Aubantounès, vous avez l'écrivain, vous avez l'Aubantounès lui-même, et le lire, c'est participer à ce qu'on appelle son flux de conscience. Mmh. Sarah Mago, il choisit toujours, il est un peu absent hein, de son œuvre, sauf peut-être les premiers, mais il choisit toujours des thèmes qui, il me semble, ce ne sont pas la première personne, et des thèmes qui sont un peu extérieurs à lui-même, hein, et ce qui en retire rien à son talent ni à son génie, mais c'est un type d'écriture et de tout à fait différente. Et en effet, je vois, la librairie, c'est pas le même public. Pas du tout.
Et donc, vu que nous avons emprunté cette voie-là, parlons donc maintenant de la troisième entité de cette triade considérée comme la triade de la littérature portugaise contemporaine. Il y a António Lobantunes, José Saramago et Augustina Bessé-Luís.
Oui, ou Lydia Jorge, peut-être aussi, qu'on aurait pu citer. Bon, Augustina Bessé-Luís, c'est un écrivain un peu à part, hein. Grand écrivain, mais plus peut-être traditionnel. Balzacienne, hein, si je peux dire, qui fouille les cœurs et les âmes. Et dans les romans, enfin, il me semble que dans les ventes, dans la connaissance du public, pas seulement au Portugal, mais même en Europe, Lobantunes et Saramago restent les deux écrivains les plus du XXe siècle et de romanciers les plus connus. Dans la triade, j'ajouterais Sade Queiroz hein, du XIXe, qui évidemment font partie des trois romanciers les plus connus dans le monde.
Oui, à tel point que Sade Queiroz a été panthéonisé il y a quelques mois.
Oui, ah bon, je ne savais pas.
Pour moi,
il était déjà dans mon esprit.
Voilà. Et il repose dorénavant au Panthéon portugais. Vous qui êtes aussi traducteur, Michel Chandaigne, quel défi justement peut représenter la traduction d'une œuvre comme celle de António Lobantunes? La traduction est un problème universel, on le sait, la philosophie allemande en français, elle est fade, quand on sait la capacité de cette langue à construire un mot qui dure une page, la poésie française, je pense à Apollinaire, me semble intraduisible, mais le portugais quand même, ce n'est pas une tâche plus aisée. C'est une langue malléable, souple, qui doit être un casse-tête pour les traducteurs.
Oui, alors moi, je n'ai jamais traduit de Lobantunes, ni de prose en général. Je suis plutôt paresseux, et j'aime mieux traduire des poèmes courts. c'est-à-dire que Lobantunes, il faut trouver en français l'équivalent de ce flux de conscience, de cette pensée qui déboule, qui vous emporte. Donc, moi, je trouve la plupart des traducteurs s'en sont plutôt bien sortis. Quand je lis une traduction française de Lobantunes, je sens que c'est du Lobantunes. Je le reconnais tout de suite, quel que soit le traducteur. Hein. Il y en a eu plusieurs. Michel Guidicelli, Carlos Batista, Dominique Nedelec, je crois. Enfin, il y en a eu plusieurs. Hein. Peut-être Geneviève Leibri, je ne sais plus. Et il me semble, au moins en français, la langue de Lobantunes passe très très bien. Mais quel que soit le traducteur. Mais bon, Lobantunes, il n'était jamais content de ses traducteurs, mais là, c'est tout à fait normal. Une chose quand même, il y a la langue qui nous touche, mais il y a aussi la thématique. Pourquoi Lobantunes a eu... Saramago, au début, n'a pas eu un succès extraordinaire en France dans les traductions. Il a eu un succès énorme en Espagne, en Allemagne, dans d'autres pays, mais en France, il était mesuré. Et il y a 20 ans, 30 ans, Lobantunes vendait autant que Saramago, malgré le prix Nobel. Et il y avait, chez Lobantunes, c'est ce qui a séduit le public français, une thématique très très forte sur les traumatismes de la colonisation et surtout de la décolonisation, qui n'existait pas dans la littérature française. Aucun grand écrivain français, finalement, a fait le grand livre de la décolonisation en Algérie. Il y en a eu. Et là, Lobantunes, soudainement, apportait au lecteur français une thématique que les grands écrivains français n'avaient pas traitée. Et donc, Lobon de Tounès, qui exorcisait un peu tous les traumatismes de la colonisation et de la guerre coloniale, de manière très très brillante, a trouvé chez le public français un écho énorme, parce que nous, Français, nous ne l'avions peut-être pas fait, pas suffisamment, sur la guerre d'Algérie et sur ce qui s'en est suivi. Oui, et ça a été très très important pour le public français.
La guerre coloniale a effectivement été le grand thème, après lui-même, de l'œuvre de Antonio Lobo Antunes, lui qui était en Angola de 71 à 73.
Exactement, c'est très important, avec quelques chefs-d'œuvre. Moi, je trouve tout ce qu'il est, son grand roman, la splendeur du Portugal, je trouve qu'on est à l'apogée de son œuvre, et ça traite vraiment de l'Angola. Et c'est un livre qui est assez stupéfiant, qui le reste.
Lobo Antunes avait ce mot, il disait qu'il fallait attraper les livres comme on attrape un virus, comme on attrape une grippe en fait. Pour lui, le livre n'avait d'intérêt que s'il était une hache qui fend la mer gelée en nous, pour citer Kafka. Qu'en pensez-vous ?
Oui, j'allais citer Kafka. Il avait d'assez belles formules pour définir le livre. En effet, un livre où je citerai Charles, quelqu'un qui vient au monde pour ne rien changer, ne mérite ni égard ni patience. En effet, la lecture doit nous changer, doit nous remuer, sinon à quoi bon lire ? Autant regarder une série américaine ou ce qu'on veut pour se distraire. En effet, c'est ça le privilège et la beauté de la littérature, c'est qu'on n'en sort pas indemne et surtout qu'on a enrichi notre vision sur le monde. C'est ce qu'apporte au bon Tounès au lecteur. Enfin, surtout à ses premiers lecteurs, parce que j'ai vu à la librairie, si vous voulez, des gens passionnés vraiment par le bon Tounès. En général, c'est plutôt des hommes que des femmes. Autant Saramago, c'est plutôt des femmes que des hommes comme lecteurs. Enfin bon, là, c'est un peu schématique.
Et pourquoi, à votre avis, d'ailleurs ?
C'est-à-dire que Lobo Antunes nous plonge au sein d'un monde quand même qui est très redoutable, et il exorcise pas seulement la guerre, mais toutes les pulsions mauvaises, atroces qu'il y a chez les mâles.
Très masculin, Antunes, en fait, oui.
Chez Lobo Antunes, il y a des très beaux portraits de femmes, mais chez quand même, les hommes, ils sont absolument ravagés. Vous me direz, c'est un peu la même chose chez Bessaluif, où les portraits de femmes sont admirables et les hommes sont insignifiants. Chez Lobo Antunes, ils sont pas insignifiants, ils sont puissants, les hommes, mais ils sont plongés, ils sont à deux doigts toujours plongés dans l'horreur ou la folie.
Oui, là, c'est une très belle description que vous faites du cul de Judas, par exemple.
Oui, par exemple.
Où cet homme complètement ravagé raconte son expérience de la guerre coloniale à cette femme qui sert de miroir à ces histoires qu'il a vécues dans le passé.
Oui, expérience d'ailleurs qu'on trouve vraiment de manière absolument splendide dans Fado Alexandrino, qui est un gros roman, mais qui est aussi une de ses grandes œuvres. Et les gens l'ont suivi pendant longtemps, justement, dans cette exploration de l'âme humaine. Mais je dois dire, c'est le cas au Portugal, et son éditrice me le confiait, les derniers romans de Lobo Antunes étaient finalement moins lus que les premiers. Il avait perdu des lecteurs en route, entre autres avec des romans très très longs, et l'impression parfois de redite, qui est une de ses techniques dans un livre, de revenir toujours sur le même sujet, de ressasser. Et j'avais une réflexion d'un de mes clients qui adorait Lobo Antunes, et qui les achète systématiquement en portugais dès leur sortie. Et il me confiait, il y a quelques années, qu'il dit que les derniers, il n'était pas sûr de les lire, mais qu'il les achetait quand même, il les voulait sur sa table de nuit. Il avait une jolie formule, il disait, c'est comme un rendez-vous qu'on a chaque année avec quelqu'un, une femme qu'on a beaucoup aimée, mais qu'on n'aime plus, qu'on aime moins, la vie nous a menés ailleurs. Alors, chaque dîner avec elle, on dîne une fois par an et c'est merveilleux, il y a tous les souvenirs qui reviennent. C'est plus tout à fait la même chose, mais c'est une sorte de d'ancienne passion qu'on continue à entretenir parce qu'elle nous a bouleversés jeunes. Je trouve que c'est pas faux, et nous tous, vous, moi, on peut le dire de beaucoup d'écrivains qu'on a beaucoup aimé à un moment, puis qu'on a lâché parce que aimer, on continue à les suivre, à les lire, en souvenir, en fidélité avec cette ancienne passion. C'est typique avec les gens qui ont découvert les les 10 premiers romans de Lobon de Tounès, hein, qui sont très saisissants, avec le manuel des inquisiteurs, enfin, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de cette période. Et puis après, qui parfois l'ont un peu perdu, vu la longueur des livres.
Ah bah, il n'y a qu'à voir la longueur des titres, plus le temps passait et plus les titres de Lobon de Tounès s'allongeaient.
Oui, et je dois dire que vu la taille de certains livres dans la seconde période, moi-même je n'ai pas lu, j'ai fait un peu pareil finalement. Et si vous me permettez d'ajouter une chose,
allez-y.
Il y a le romancier Lobon de Tounès, mais aussi le chroniqueur. Mmh. Il a fait un ensemble de chroniques énormes, il y en a 5 traduits en français, ces chroniques ont eu beaucoup de succès. Et dans ses chroniques, moi j'aime beaucoup les chroniques. Finalement, c'est ce que je relis le plus. Ces chroniques, il les faisait pour des journaux et il se laissait aller à un humour, une légèreté, une légèreté de l'être qu'on ne lui connaissait pas dans ses romans. Et ces chroniques sont des petites merveilles d'humour, de légèreté et sont pas du tout des œuvres anecdotiques.
Et pourtant, il disait détester l'exercice de la chronique, puisque Lobon de Tounès avait très peur de la facilité et le travail que lui demandait l'écriture d'un roman et que ne lui demandait pas l'écriture d'une chronique l'effrayait. Il se disait, c'est très mauvais ce que je ponds, quoi.
Oui, mais il le savait. Parce qu'il y avait une sorte de refus, de la légèreté. Mm-hmm. Mais quand on les relit, ces chroniques, c'est d'une finesse, c'est d'une tendresse envers l'humanité, d'une autodérision sur lui-même. C'est vraiment merveilleux. J'ai beaucoup de gens, vous savez, qui apprennent le portugais, qui ne lisent pas encore couramment. Je disais, mais lisez les chroniques de Lobon de Tounès. C'est drôle, c'est léger, et ça vous permettra d'aborder cette œuvre d'une manière plus graduelle. C'est un merveilleux chroniqueur, mais justement sur cette lourdeur de l'écrivain dont il aimait parler, qui était pour lui son bien-travail, il avait une formule merveilleuse, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah, cet homme est admirable. C'était dans Libération, il y a 30 ans, on demandait à 100 écrivains pourquoi ils écrivaient. Donc la plupart des écrivains ont fait une page, une demi-page, un peu intellectuelle, j'écris parce que la vie, la mort, etc., blablabla. Et lui, il a juste répondu, j'écris parce que je ne sais pas danser comme Fred Astaire. Voilà. Magnifique.
Ah, c'est sublime. Mais il avait effectivement des très bons mots.
Oui, tout à fait. Et parfois des aspects très étonnants. Par exemple, il a fait une préface pour un livre de Eugenio de Andrade, paru à l'Escampette. Donc il l'a fait, je crois qu'il l'a fait directement pour la traduction française. Et oui, qui déborde de tendresse pour Eugenio de Andrade, pour cet homme, pour son écriture, alors qu'on ne s'y attend pas du tout. La poésie d'Eugenio de Andrade, la littérature de Lobon de Tounès, ça n'a absolument rien à voir. Mais il était capable justement de cette admiration et tendresse pour d'autres. Et ça se sent dans ses chroniques d'une manière très forte. Et je conseille vraiment de lire des chronettes et de les découvrir pour ceux qui ne connaissent pas.
Et j'ai appris hier soir que nous allons découvrir aussi le Lobon de Tounès poète, puisqu'un recueil de poésie inédit sera publié après sa mort, donc de façon posthume, puisqu'il nous a quittés hier.
C'est ça. Alors bon, je ne sais pas, je n'ai jamais lu de poésie de lui, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sûr que c'est une curiosité. Et je suis sûr que tout le monde au Portugal va l'acheter. Parce qu'il y a un phénomène quand un écrivain meurt, c'est que les ventes de cet écrivain explosent. Je crois que à la mort de Julien Gracq, Corti a vendu en 4 mois plus de livres de Julien Gracq pendant toute sa vie. Il y a comme l'idée d'avoir une relique chez soi du grand homme, comme on voulait un bout d'os de tel saint. Et donc, quand un écrivain meurt, les gens veulent soudain avoir une relique du grand écrivain chez lui, quelque chose, et vont acheter un livre. Et je suis sûr que ce livre, parce qu'il est une curiosité, parce que c'est des poèmes, parce qu'il parle, je pense qu'ils parleront à tout le monde, même les gens qui ne les lisent peu, sera un immense succès de vente. je pense qu'il sera traduit en français dans la foulée.
Et donc on ne sort pas indemne effectivement de la lecture de Antonio Lobo Antunes, les chroniques, la poésie à venir, une quarantaine de livres exigeants disponibles en français chez Christian Bourgois ou aux éditions Métayer. Et ce sont des titres magnifiques, Le cul de Judas, Explication des oiseaux, La farce des damnés, Exhortation au crocodile, La nébuleuse de l'insomnie, Quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer, ou encore parmi les plus récents, Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau. Quel est l'ouvrage de Lobo Antunes qu'il nous faut retenir selon vous, Michel Chandaigne? Quel est celui qui vous a attrapé comme une grippe?
Alors, je crois que la porte d'entrée de Lobo Antunes, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent le redécouvrir, c'est les premiers, hein, Mémoire d'éléphant, mais surtout Le cul de Judas. Fado Alexandrino, Explication des oiseaux. Je crois qu'il faut lire Lobo Antunes dans l'ordre chronologique de parution, parce que là, on s'enfonce, ou on descend, ou on s'étend dans un monde de plus en plus vaste. Et puis, on continue jusqu'au 41e livre, où on s'arrête en route, mais c'est la meilleure manière de lire. Et Le cul de Judas, c'est une des meilleures introductions. Le Fado Alexandrino aussi, pour un livre plus vaste. Moi, je vous dis que j'aime beaucoup La splendeur du Portugal. C'est un livre vraiment fascinant, même s'il faut dire que dans l'écriture de Lobo Antunes, il n'y a pas beaucoup d'humour, hein. C'est très très éprouvant. C'est même un de ses traits de caractère. Alors que dans ses chroniques, ça déborde d'humour.
Mais n'est-ce pas, dire tout à l'heure. N'est-ce pas très portugais finalement?
Non, parce que ça de Queiroz, l'humour, l'ironie, dans toutes les pages.
Très portugais post-dictature, disons. Très portugais ayant subi 48 années de Salazar. Ce qui n'a pas été le cas de Vincent Queiroz.
Je cherche des contre-exemples. Oui, en effet, mais bon, la littérature n'est pas forcément un lieu de déchaînement humoristique. Hein. Voilà. même au 19e siècle, en France, Flaubert, c'est pas l'humour qui le caractérise quand même. Non, alors, je reprends, lire dans l'ordre chronologique. Avec les livres que le Manuel des Inquisiteurs, un livre très très violent, un des plus éprouvants à lire. Mais pour le lecteur français, je signale quand même cette curiosité, c'est quasiment tous les livres de Lobo Antunes, enfin beaucoup, la moitié des livres de Lobo Antunes, sauf chez Métellier, ne sont plus accessibles, sont épuisés, ne sont pas réimprimés. Il était paru en poche et quasiment tous les poches sont épuisées. Alors je les ai à la librairie parce que je les récupère et je les systématiquement, mais je ne sais pas si c'est une stratégie avant la publication, alors éventuelle en Pléiade, je ne sais pas, il faudrait se renseigner, ou bien d'une réédition, si c'est une question de droit, je ne sais pas. Mais c'est un peu un mystère que, à part les deux livres chez Métellier, quasiment tout est disparu des rayons pour l'instant.
Et votre librairie portugaise et brésilienne, je vais rappeler son adresse, dans le 5e arrondissement, se trouve donc au 21 rue des Fossés, Saint-Jacques, la librairie portugaise et brésilienne à Paris.
Et place de l'Estrapade, à droite du Panthéon.
Exactement. Merci beaucoup Michel Chandaigne pour ce moment.
Oh, merci à vous. Au revoir.